d'écouter RFI, les 8h30 à Paris, une heure de moins à Bangui. L'information africaine vous est présentée par Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Andréane, bonjour à toutes et à tous. Et il a clairement pris toute la lumière au Gabon. Brice Clotaire Oligui Nguema est donc déclaré très largement vainqueur de la présidentielle avec 90,35% des voix. Chiffre encore provisoire mais qui donne à comprendre comment le nouvel homme fort de Libreville a dominé la scène politique depuis son coup d'état contre Ali Bongo. Vous entendrez sa toute première réaction dans quelques instants. Une polémique en RDC ensuite sur un renforcement du contrôle présidentiel sur les entreprises publiques. Quelle réaction à Madagascar après le sursis décidé par l'administration Trump pour la hausse des tarifs douaniers? Nous serons à Antananarivo. Un bus pour faire découvrir la science, le Space Bus qui sillonne actuellement le Sénégal, ce sera notre dossier du jour. Et puis un peu de foot au menu avec le malaise André Onana à Manchester United. Un succès sans surprise au Gabon, où Brice Clotaire Oligui Nguema est donc déclaré vainqueur de la présidentielle organisée samedi. Il récolte 90,35% des voix, selon les chiffres encore provisoires du ministère de l'Intérieur, et il prend ainsi la tête du pays pour 7 ans au moins. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui s'est exprimé dès hier soir et l'annonce des résultats, il a pris la parole à son QG de campagne au milieu de ses partisans. Je vous propose tout d'abord d'écouter sa réaction.
Je tiens à saluer particulièrement la maturité du peuple gabonais. J'en appelle à la sagesse des uns, des autres et de tous les bâtisseurs et de tous ceux qui m'ont accordé leur suffrage d'attendre la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle pour célébrer la victoire du peuple gabonais. Mes chers compatriotes, notre pays est en chantier. Je vous invite à reprendre vos activités professionnelles dans cette 5e République que nous appelons de tous nos voeux.
Brice Clotaire Oligui Nguema, qui se dirige donc désormais, sauf surprise, vers l'investiture au Gabon. Les candidats malheureux ont 8 jours pour contester ces résultats s'ils estiment qu'il y a lieu de le faire. Des candidats qui arrivent très loin, en tout cas derrière le président élu et ses 90%. L'ex-premier ministre Alain-Claude Bilibinzé est notamment crédité de 3%. Les 6 autres ne dépassent pas 0,56%. On peut donc le dire, Brice Clotaire Oligui Nguema a clairement écrasé la scène politique durant la transition engagée après le coup d'état militaire qu'il a lui-même initié contre Ali Bongo. Retour ce matin sur son ascension au sommet de l'État avec François Mazé.
À son intronisation le 4 septembre 2023, Brice Clotaire Oligui Nguema promet de rendre le pouvoir aux civils. Très rapidement, néanmoins, ses intentions ne font guère de doute. La charte de transition exclut des élections tous ceux qui la conduisent, à l'exception de son chef. Le dialogue national amène à une constitution hyper-présidentialiste et à des conditions d'éligibilité très strictes qui écarte plusieurs ambitieux. Un texte taillé sur mesure, disent ces critiques, qui voient au fil des mois ressurgir les pratiques du régime déchu, culte de la personnalité jusqu'à la déification et recyclage des rouages de l'ancien pouvoir dans l'administration, la campagne et l'appareil électoral. Brice Clotaire Oligui Nguema rallie tout le spectre politique, ex-pédégiste, grande figure de l'opposition et conscience de la société civile se retrouve sous son étendard. Le rassemblement des bâtisseurs et ses 110 organisations écrasent la campagne, parvient à mobiliser largement et à inscrire nombre de nouveaux électeurs. Son objectif, la victoire cash, le score à la soviétique, est aujourd'hui atteint. François Mazé, Libreville, RFI.
Et avant de quitter le Gabon, un mot également sur la participation de samedi. Elle a été revue à la baisse comparée à ce qui avait été annoncé dans un premier temps. 70% des Gabonais se sont déplacés selon le ministère de l'Intérieur. Une présidentielle au Gabon qui sera d'ailleurs ce matin le sujet d'appel sur l'actualité avec Juan Gomez. Rendez-vous bien sûr à partir de 8h10 en temps universel.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et d'ici là, direction la RDC, où une décision adoptée la semaine passée en Conseil des ministres provoque une controverse, une mesure qui renforce les pouvoirs du président en matière de contrôle et de sanction des entreprises publiques. Car désormais, aucun membre du gouvernement congolais ne pourra suspendre de sa propre initiative un mandataire public. En effet, cette prérogative revient au seul chef de l'État, c'est-à-dire en l'espèce au président Tshisekedi. Pourtant, cette mesure serait tout bonnement illégale, à en croire l'analyse de Valérie Madiangan, chercheur au Centre de recherche en finances publiques et développement local.
Cette décision, ça nous surprend. La Cour des comptes un mandat d'auditer les services publics et voire même des entreprises publiques. Au cas où on constate une malversation financière, la Cour des comptes peut recommander la déchéance l'interpellation ou bien une sanction, peut solliciter une sanction au niveau du gouvernement à l'égard des mandataires publics. Lorsque le président de la République s'immisce dans la gestion des entreprises publiques, interfère dans les décisions, par exemple, des instances de contrôle, d'une manière ou d'une autre, pouvait constater une mauvaise gouvernance, il y a un problème d'équité. Et cette décision-là n'est soutenue par aucun texte légal. Moi, je viens de parcourir tous les textes, mais nous pensons que c'est quand même mal placé, le président de la République est mal placé à interférer chaque fois dans la gestion des entreprises publiques.
Valérie Madionga, chercheur au CREFDL en RDC. L'horreur de la guerre au Soudan et le calvaire des déplacés du camp de Zamzam au Darfour Nord, un camp qui abrite des centaines de milliers de personnes et dont les paramilitaires FSR affirment avoir pris le contrôle. Cela après leur revers enregistré dans la capitale Khartoum face à l'armée régulière du général Al-Bourhan. Le Darfour Nord où les FSR accentuent par ailleurs leur pression sur la capitale régionale El Fasher. Au moins 56 civils y ont été tués en deux jours selon le gouverneur proche de l'armée. Une guerre au Soudan qui s'apprête à entrer dans sa troisième année. Édition spéciale demain matin sur RFI à partir de 6h10 en temps universel. Un tout autre type de guerre maintenant. La guerre commerciale déclenchée par les États-Unis qui promettent une hausse spectaculaire des droits de douane. Mais vous l'avez peut-être entendu sur notre antenne, l'administration Trump a finalement mis en sursis cette hausse pour 3 mois, sauf pour la Chine. Or, cela suffit-il à rassurer? On le voit ce matin à Madagascar où des taxes de 47% devaient être imposées aux exportations vers les États-Unis. Sur place, les autorités malgaches espèrent mettre ces 3 mois à profit pour négocier des taux plus avantageux. Mais l'industrie, elle, redoute les conséquences. Le secteur du textile et de l'habillement, notamment. Pauline Le Troquier l'a constaté dans l'une des plus grandes zones franches de la capitale, Antananarive.
Accoudée au comptoir d'une gargote de rue, blouse blanche encore ajustée, la latine vient de s'échapper de l'usine le temps d'une pause. La contremaître a construit toute sa carrière dans cette grande société de textile, mais la chef d'équipe refuse pour l'heure de s'alarmer de la situation, trop occupée à mobiliser ses troupes.
On n'a pas encore eu de commande annulée, mais on sait bien que ça pourrait tomber dans les jours prochains. D'ailleurs, c'est déjà arrivé à plusieurs de nos concurrents. Alors, on accélère le rythme, on s'efforce d'honorer les commandes en cours et de les expédier au plus vite.
On a peur, mais actuellement, on ne garde pas cela dans nos têtes et on laisse faire les grands.
Ce midi, Ange quitte à son tour l'usine par une porte d'accès très surveillée. Ce cadre s'inquiète moins pour son propre poste que pour ceux, dit-il, de milliers d'ouvriers, des machinistes ou tricoteurs. Eux risquent de perdre le privilège d'un emploi formel à Madagascar.
Il y a les avantages sociaux. Quand on est malade, ils prennent en charge quelques médicaments, tout ça. C'est ça qui est menacé parce que où vont se retrouver toutes ces personnes-là? Les machines-là, ce sont leurs vie, en fait. Et si on les retire, ils meurent avec leur machine.
Les 180 000 travailleurs employés dans les entreprises de textile sur l'île sont désormais suspendus aux négociations. La filière pèse plus de 19% du PIB national. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
De nouvelles tensions entre la France et l'Algérie. Une semaine après la visite du ministre français des Affaires étrangères, la diplomatie française demande à Alger de renoncer à l'expulsion de 12 agents français. Selon les services de Jean-Noël Barrot, il s'agirait d'une réponse à la mise en examen en France de 3 ressortissants algériens, dont un employé d'un consulat algérien. Pendant ce temps, le ministre français de l'Intérieur est arrivé, lui, hier soir au Maroc pour une visite express de 24 heures. Bruno Retailleau évoquera avec les autorités marocaines la coopération migratoire et la lutte contre le crime organisé ainsi que le trafic de drogue. Vulgariser et promouvoir la science, voilà l'ambition de ce projet qui fait l'objet de notre dossier ce matin. Le Space Bus, ce bus qui sillonne le Sénégal avec 60 passionnés à bord, mobilisé pour susciter des vocations en attirant les regards, comme son nom l'indique, vers l'espace. Une porte d'entrée relativement ludique sur la science. 20 villes au programme pour ce Space Bus. Il est déjà passé à Thiès, à une centaine de kilomètres au sud de Dakar, là où Léa Lisa Westerhoff nous le fait visiter.
Alors regardez, si on avait envie de faire bouillir
devant une audience captivée, Dembo Biakité fait bouillir de l'eau sans feu ni électricité.
Mais je suis un dealer de science. C'est de l'eau qui bout.
L'objectif pour ce professeur de physique à la retraite, montrer que les sciences, c'est pas compliqué.
Et on veut que la population, les élèves, s'intéressent un peu plus à la science, qu'ils viennent s'étonner devant les faits scientifiques et qu'ils recherchent les explications.
Car le désamour est profond. 16% à peine des élèves sénégalais se tournent vers des filières scientifiques. C'est 2,5 fois de moins qu'il y a 40 ans. temps. Pour Amadou Mustapha Dem, dont la start-up veut démocratiser l'informatique, il faut inverser cette tendance.
Il ne faut pas se voiler la face, l'Afrique. Dans le cadre numérique, l'Afrique est vraiment en retard. Donc nous, notre mission, c'est d'essayer d'enlever les mystiques qui sont autour de la science. Parce que les élèves, ils ne choisissent pas les filières scientifiques, ils se disent que c'est difficile. Alors que lorsque tu t'y intéresses, ça va venir forcément.
Observation des planètes, pilotage de drones, jeux scientifiques, le planétologue David Baratou fait partie des animateurs de ce Spacebus.
On montre aussi des métiers qui existent dans le secteur du spatial et comprendre que son rêve, il est peut-être réalisable et que peut-être il fera des études au Sénégal, peut-être ailleurs.
Louga, Podor, Ziguinchor, au Kédougou, jusqu'au 13 mai, le Spacebus fera rêver les jeunes dans 20 villes du Sénégal. Léa Lisa Westerhoff, de retour de Thiès, RFI.
Viser la Lune, rendre accessible à tous les formations scientifiques, on l'a compris, c'est l'objectif de cette caravane Spacebus pour son fondateur, l'astronome Maram Kerr, directeur de l'Agence sénégalaise d'études spatiales. Cela est fait pour rappeler à tous que l'espace est accessible désormais, mais sur le continent, ce sont les scientifiques qui manquent dans le domaine. Écoutez Maram Kerr.
On a fait comprendre à l'Afrique que le spatial, ça coûtait cher, que ce n'était pas accessible. Aujourd'hui, avec l'avènement du New Space, il est possible de faire des petits satellites et d'arriver donc à recueillir des données qui peuvent aider dans les secteurs prioritaires, l'agriculture, la santé, l'élevage, la protection de l'environnement, la sécurité de nos frontières, les plateformes de pétrole, ainsi de suite, et les ressources maritimes. Donc, l'Afrique a pris cette prise de conscience. On est à 22 agences spatiales qui sont créées sur le continent. Une quarantaine de satellites ont été lancés en l'espace de 20 ans. Et si aujourd'hui le spatial est un levier de développement durable, il faut s'assurer que les investissements ne seront pas perdus dans 20 ans, tout simplement parce que nous n'avons pas la masse critique de scientifiques pour faire le travail. Donc c'est une chose d'investir, c'est une autre chose de préparer la jeunesse à porter le flambeau pour le développement scientifique du continent. Et le Spacebus contribue donc à créer cette prise de conscience.
Maram Kaire, fondateur donc du Spacebus, qui a fait sa première tournée au Sénégal en 2015. Et depuis, il s'est exporté en France, au Maroc, au Togo, au Bénin et en Côte d'Ivoire. Il sera d'ailleurs le sujet d'une émission spéciale d'Autour de la question cet après-midi avec Caroline Lachowski. Soyez à l'écoute, bien sûr. Du foot à présent, avec ce malaise autour d'André Onana, le gardien camerounais de Manchester United qui a vécu des derniers jours difficiles, à la peine en quart de finale de Ligue Europa la semaine dernière, pris pour cible par certains supporters. Il n'a même pas été convoqué par son entraîneur Ruben Amorim pour le déplacement des Red Devils à Newcastle ce dimanche. Baptiste Leduc, cela laisse craindre l'idée d'un déclassement pour Onana.
Si André Onana n'avait jamais expérimenté l'effet papillon, c'est maintenant chose faite. Sa provocation avant le quart de finale de Ligue Europa contre l'Olympique Lyonnais aurait pu rester sans conséquence, mais ses boulettes sur les buts lyonnais lui ont attiré des critiques. Après la rencontre, l'entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, ne semblait pourtant pas vouloir lâcher André Onana.
Cela peut arriver à n'importe quel joueur. Rien de ce que je dirais ne pourra l'aider. André garde toute ma confiance.
Sauf que le coach portugais a remis une pièce dans la machine ce week-end, alors qu'Onana n'avait pas manqué une seule minute de championnat depuis son arrivée à Manchester en 2023. Voilà qu'il s'est retrouvé assigné à résidence un week-end de match. Alors c'était pour se reposer officiellement, donc ce n'est pas encore une mise au placard, mais de nombreux supporters se demandent si le portier camerounais a les qualités requises pour rester numéro 1. Certains ont même repris la thèse de Nemanja Matic, le milieu lyonnais qui avait estimé qu'Onana était le pire gardien de l'histoire récente de Manchester United. En attendant de savoir s'il va retrouver sa place rapidement, André Onana peut au moins compter sur le soutien du syndicat des joueurs camerounais qui dénonce dans un communiqué le harcèlement subi selon eux par le portier des Lions Indomptables.
Baptiste Leduc, et notons que Manchester United n'a pas fait mieux sans André Onana qu'avec lui. Défaite 4-1 à Newcastle. Notre matinale continue, on retrouve tout de suite Andréane Mélard.